Ok, donc on va prendre à la page 12. Attends, c'est la Mishnah de M. Dayan, ça.
Ouais, je suis avec lui.
D'accord. On va prendre donc la page 12, la cinquième Mishnah du premier chapitre de Brachot. Donc jusqu'à présent, de quoi on a parlé? On a parlé du Zman, de l'heure à laquelle on devait lire le Kriyat Shema du matin, le Kriyat Shema du soir. On a parlé également des Brachot qu'on devait lire avant le Shema et après le Shema. D'accord? Et là maintenant, on va parler un petit peu de la structure du Shema. Donc, cinquième Mishnah nous dit la chose suivante. Elle nous dit que on va parler de la troisième paracha qu'il y a dans le schéma. Puisque le schéma à proprement parler, en vérité, c'est seulement les deux premiers paragraphes. Et on voit qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux premiers paragraphes, comme on l'a étudié dans le cours du mercredi. D'accord? Donc le schéma Ve'ayam Shamoa Tishmeu, non pardon, Ve'aftet Hashem Elokecha et Ve'ayam Shamoa, les deux premiers paragraphes du schéma, se ressemblent beaucoup. Donc ça c'est le schéma. D'accord? Ça c'est le schéma. La troisième partie du schéma, ce qu'on appelle dans la Mishnah la paracha Titit, donc la paracha des Titit, elle a été rajoutée par la suite. Donc elle a été associée au schéma. Alors la question se pose dans la Gemara, dans le premier chapitre donc, de Brachot, dans notre Gemara ici, est-ce que cette paracha Titit, est-ce que on doit la lire le matin et le soir, ou que le matin? Il y en a qui pensaient que le matin, on dit les trois parachas, donc Ve'afta, Ve'ayam Shamoa, et Vayomer, on fait paracha Titit. Mais le soir, on dit que les deux premières. Voilà, pas la paracha Titit. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de parallèles en ce moment. Puisqu'on a appris dans Mishnah Brura que, d'après certains avis, la nuit, c'est pas un zman de Titit. C'est pas un moment dans lequel on met Titit. Donc, il n'y a pas de sens de faire la paracha de Titit la nuit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ce qu'on va voir ici.
On part de la nuit, on part pas de Harvit.
Non, on part de la nuit, oui. Le Kriyat Shema de la nuit.
Dans Harvit, ou dans le soir avant
Harvit. Le Kriyat Shema qui dit soir, même dans Harvit.
Et à la Mita alors.
Harvit, c'est la même chose. Le Kriyat Shema qui correspond au soir.
Au soir.
Donc il y a des avis qui pensaient qu'on ne le fait pas.
D'accord.
Alors, donc on va lire dans les mots. Maskiri Nitiat Mitzrayim Balelot. C'est pour ça que vient nous dire la Mishnah, que attention, bien qu'il y ait certains avis qui pensent que on ne dit pas, on ne mentionne pas la sortie d'Égypte. La nuit, d'accord. Donc, bien que normalement, c'est quoi le problème qu'on a, hein, c'est que dans la paracha Titit, on parle des Titit, d'accord, parce qu'on dit va y aller à la Chem les Titit, etc. Donc normalement, il n'y a aucun sens de faire cette paracha-là le soir, puisque le soir, il n'y a pas la nuit des Titit. Qu'est-ce qu'elle te répond, la Mishnah? Elle te dit oui, mais dans cette paracha-là, on ne parle pas que des Titit, on parle aussi de la sortie d'Égypte. Et la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte est une mitzvah qui est constante, est une mitzvah qui est et le jour et la nuit. C'est pour ça que on fait cette paracha-là. La troisième paracha du Kriyat Shema, on la lit également le soir. Ouais, ça c'est quatre mots de la Mishnah. Maskiri Nitiat Mitzrayim Balelot, on mentionne la sortie d'Égypte pendant les nuits. Donc c'est pour répondre à une question cachée, pour dire pourquoi on fait la paracha Titit la nuit. C'est parce que dans cette paracha-là, on parle également de la sortie d'Égypte, qui elle est d'actualité aussi la nuit. D'accord? Ah, ma Rabbi Elazar ben Azaria. Ça c'est une phrase qui est très célèbre, qu'on lit dans la Haggadah. Hein? Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria a raconté. Areani Keven Shivim Shana. Je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Alors, c'est quoi le contexte ici? La Gemara raconte que Rabban Gamliel, c'était le Nassi. C'était le président, donc le Rosh Yeshiva, aujourd'hui on aurait dit. C'est le Rosh Yeshiva. Donc, c'est la Yeshiva où ils étaient. D'accord? Et il y a un problème, c'est que Rabban Gamliel, il taquinait beaucoup. Rabbi Yeshua ben Hanania. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un truc, il le piquait un peu, comme ça. D'accord? C'est pas négativement, mais il le piquait. Et tellement, bon, peut-être que Rabbi Yeshua, il le prenait bien, mais les élèves, ça les dérangeait de voir cette situation. Donc, ils ont décidé un jour de renvoyer Rabban Gamliel. Ils ont viré Rabban Gamliel. Ils ont dit, ça n'était plus Rosh Yeshiva, on veut plus Rosh Yeshiva qui envoie des piques. Donc, ils l'ont renvoyé. Et qui ils ont nommé à la place? Ils ont nommé Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, quel âge il avait?
17 ans.
18. D'accord? Il avait 18 ans. Et bon, la Gemara raconte qu'il n'était pas tranquille quand il est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, il a dit, mais comment je veux dire chez Shiva? Bon, c'est pas les connaissances qui le dérangeaient, les connaissances il les avait. Ce qui le dérangeait, c'est le look. J'ai pas le look de chez Shiva. D'accord? Alors on dit qu'il a eu un miracle. C'est quoi le miracle qu'il a eu? C'est quoi le miracle qu'il a eu?
Non.
Combien de colonnes de barbe il a eu?
Il y a des colonnes de barbe.
Ah oui, 18 colonnes de barbe il a eu.
Ça veut dire colonne.
C'est colonne. Colonne, je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. D'accord.
Ah, ils ont fait, c'était un postiche.
C'est écrit qu'il a eu 18 colonnes, 18 rangées, d'accord ?
Ouais, c'est ça, 18 traits.
18 rangées de, donc de, dans sa barbe, d'accord ? Et c'est pour ça que Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, « Aré ani kevel shivim shana ». C'est pour ça que Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, donc lors de son entrée en fonction, il dit, « J'ai l'air comme quelqu'un qui a 70 ans. » Kevel shivim shana. Donc je suis comme quelqu'un qui a 70 ans, j'ai l'air de quelqu'un qui a 70 ans.
Et quel rapport ? On parle des titis et d'un coup de ramasser ça.
Alors,
c'est quoi le lien ?
Encore une fois, on parle des titis parce qu'avec ça, on veut répondre à la question pourquoi on lit la troisième paracha du schéma le soir ? A priori, le soir, c'est pas un schéma de titis. Ouais. La réponse est que dans le troisième paragraphe du schéma, c'est vrai qu'on parle des titis, mais on parle aussi de la sortie d'Égypte. Voilà. D'accord ? Asher ani Hashem lokechem, Asher ani titis eret Mitzrayim. Or, la sortie d'Égypte, c'est d'actualité, la nuit aussi. C'est pour ça qu'on lit aussi cette paracha le soir. Ça veut dire qu'en vérité, le matin, quand on fait la troisième paracha, c'est pour une double raison. Premièrement, c'est pour parler des titites. Deuxièmement, c'est pour parler de la sortie d'Égypte. Le soir, c'est pour une seule raison. C'est pour parler de la sortie d'Égypte.
D'accord ?
Ah, pourquoi on parle de Benzama Nazaria ? Je vais y arriver tout de suite.
Voilà,
d'accord ? Alors, peut-être avant d'avancer, Maïmonide, il a une explication intéressante. Vous savez que Maïmonide a écrit un commentaire sur la Mishnah. Et il dit que pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria, il dit qu'il a l'air de quelqu'un de 70 ans. Donc lui, il dit pas cette histoire de la barbe. Lui, il a une autre explication. Il dit que Rabbi Elazar ben Azaria, il avait 18 ans, mais tellement il étudiait, qu'on dit que la Torah, ça affaiblit un homme. C'est-à-dire que la Torah, ça affaiblit le travail intellectuel. D'accord?
Un
effort intellectuel. Pas seulement ça. Un effort intellectuel, ça fatigue encore plus qu'un effort physique. Un vrai effort intellectuel. Donc c'est pour ça que Maïmonide dit, pourquoi il dit que j'ai l'air de quelqu'un de 70 ans? Parce que tellement il étudie la Torah jour et nuit, tellement il se fatiguait. D'accord ? Que quand on le voyait, on avait l'impression qu'il avait 70 ans. C'était comme un vieux. Tellement il s'était fatigué physiquement. Bon, c'est une deuxième explication. En tout bon, ça c'est du décor. Donc Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, je suis comme quelqu'un de 70 ans. Velo zachiti, j'étais à ma, il une train balélote. Et je n'ai jamais eu le mérite de, bien que j'étais toujours avec des gens, des chachamim, d'accord ? Mais je n'ai jamais eu le mérite de savoir où est écrit dans la Torah l'obligation de mentionner à la sortie d'Égypte la nuit. Donc vous voyez comment ça nous concerne maintenant, puisque nous on a dit que, pourquoi on lit le troisième paragraphe du schéma le soir? Parce que on parle de la sortie d'Égypte. Alors Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, écoutez, j'ai côtoyé des chachamim, enfin toute ma vie, enfin il avait 18 ans, d'accord? Et je n'ai pas eu l'occasion encore, et maintenant on comprend le contexte de la galette Pessah, je n'ai pas eu l'occasion de comprendre pourquoi, d'où on sait qu'on a l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Puisqu'on, quand on est sorti d'Égypte? La nuit ou le jour?
Le jour.
Le jour. À quelle heure on est sorti?
À midi.
À midi. D'accord. Donc pourquoi la nuit on ne doit pas la sortie? J'ai eu qu'un rapport à la nuit. Ah, tu dis Racha Benzoma. Qui c'est qui a trouvé la Dracha? C'est Benzoma. Chez Neymar, comme c'est écrit. Alors pourquoi on l'appelle Benzoma? Les Chachamim, on les appelait au nom de leur père. Parce que Benzoma, c'est-à-dire fils de Zoma. Ouais. Il a un nom, ce Benzoma. Ouais, comment il s'appelait?
Son prénom,
ouais. Après, non, on a pas son prénom. On donne le nom de son père. C'est-à-dire fils d'un tel. D'accord ? Alors, il y a deux raisons possibles. Ou bien quand c'était des chachamim qui ne sont pas mariés, pour montrer qu'ils ne sont pas mariés, on les appelle Ben Azaï, Ben Zoma, etc. Ou bien quand son père était très important. Donc du coup, son père lui faisait toujours de l'ombre. Là, dans le cas de Ben Azaï et Ben Zoma, c'est parce qu'ils ne sont pas mariés. C'est des chachamim qui ne sont pas mariés.
Ils
sont restés célibataires.
On peut ? Oui, la mitzvah de trop.
Pas dit qu'il peut. Ça, c'est la Gemara, elle en parle. Non, Ben Azaï, il ne voulait pas se marier. Ben Azaï, il voulait rester dans la Torah. Il y a des Chachamim qui ont approuvé ce qu'il a fait, il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il a fait. C'est une autre question, ça. En tout cas, on dit comme ça. Donc Ben Zoma, il a dit la chose suivante, c'est écrit, chez Neymar, comme c'est écrit, les mâles, Tiskor et Tiam, etc. D'où on sait qu'on a l'obligation de mentionner à la sortie d'Égypte la nuit. Et donc, par ricochet, on comprend que le troisième paragraphe du schéma, il faut le lire aussi la nuit. Chez Neymar, comme c'est écrit, il est mal, tu scores, et tiens, etc. Mais eret mitzraï, kol yeme chayecha. Le verset, il nous dit, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, kol yeme chayecha, tous les jours de ta vie. Ah, bah, tous les jours, alors, on n'a toujours pas parlé de la nuit. Alors, Benzema, il dit comme ça. Il dit, yeme chayecha. Pourquoi le verset, il me dit, afin que tu te souviennes du jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie? C'est quoi ce terme kol yeme chayecha, tous les jours de ta vie? D'accord? En hébreu, on aurait pu dire aussi yeme chayecha, pendant le jour de ta vie. Pourquoi kol yeme chayecha? D'accord? Donc ça s'appelle dans le langage de la Gemara un ribouille. Donc yeme chayecha ayamim, Si on avait dit uniquement les jours de ta vie, j'aurais compris que c'est que les jours. S'il a rajouté Kol Yemei Chayecha, tous les jours de ta vie, c'est une allusion pour te dire que, d'accord, à l'Elot, qu'il faut mentionner donc le la sortie d'Égypte également la nuit.
D'accord.
Donc voilà pourquoi nous le soir on rajoute également le troisième paragraphe du schéma. Bah, ça c'est un premier avis. Chachamim omrim, Chachamim disent Yemei Chayecha à Olam Hazeh. Chachamim disent que non. Yemei Chayecha, ça correspond à quoi? Les jours de ta vie, ça correspond à quoi? Ça correspond aux jours de ce monde-ci. Kol Yemei Chayecha, et tous les jours de ta vie, la vie limote à Mashiach, c'est pour nous parler des jours où Mashiach va venir, que même lorsque Mashiach va venir, on rappellera la sortie d'Égypte. Ça veut dire que je vous expliquais la marloquette qu'il y a ici, entre Ben Zoma et Chachamim. Le verset, il dit qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte les jours de sa vie. C'est un terme qui n'est pas très précis, les jours de sa vie. Comment vous comprenez quand je dis les jours de ta vie? D'accord. Alors Ben Zoma, il a compris que quand tu dis les jours de ta vie, ça veut dire le jour. Et puisque tu m'as dit tous les jours de ta vie, ça veut dire qu'on a rajouté aussi les nuits. D'accord. Bon, ça c'est Ben Zoma. Rachamim, ils n'ont pas compris comme ça. Rachamim, ils disent non. Ils disent, quand tu me dis que tous les jours de ta vie, c'est quoi les jours de ta vie? Les jours de ta vie, la nuit aussi c'est les jours de ma vie. Les jours de ma vie, ça veut dire toute ma vie dans ce monde-ci. Donc la nuit est incluse aussi. Alors, pourquoi la Torah m'a dit tous les jours de ta vie? C'est pour rajouter quoi? Pour rajouter l'imot à Mashiach. Pour rajouter l'imot à Mashiach, que même quand Mashiach va venir, et qu'a priori on va se dire, mais quand Mashiach va venir, la sortie sera tellement belle, la sortie de l'exil sera tellement belle, que qui pensera à ce moment-là à la sortie d'Égypte? Qui en aura affaire à ce moment-là à la sortie d'Égypte? C'est rien du tout. Ouais. Et bien, ils te disent non, Chachamim. Ils te disent que quand Mashiach viendra, on se rappellera aussi la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, c'est la mère de toutes les autres sorties. C'est elle qui a entraîné toutes les autres sorties. C'est pour ça que même lorsqu'on aura Mashiach, on sortira de la galoute, on se rappellera de la sortie d'Égypte. Parce que s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte, jamais il aurait pu avoir la sortie de Mashiach. Voilà, on a eu une fin un petit peu midrashique pour ce pérec là. Maintenant on passe au deuxième chapitre. Pérec Sheni. C'est quelle page? Page 13. Alors, notre Mishnah, elle va parler de la kavana qu'on doit avoir lorsqu'on lit le schéma. D'accord? Donc, elle va parler de deux problèmes. Notre Mishnah va parler de deux problèmes. Premièrement, messieurs, aidez béni, hein, comme ça vous faites une bracha en même temps que vous faites le cours. C'est une bonne chose.
Les six béniers sont arrivés.
Qu'est-ce que ça c'est les béniers? Ils sont très bons.
C'est les bébés de béniers de
Madame. Béniers, Julien, devant.
Tenez les serviettes parce qu'il y a de l'huile. Ah,
c'est lui
David.
Un petit
serviette.
Alors.
Il manque la confiture.
Donc la Mishnah. Monsieur Bismuth, c'est là qu'il faut amener du beurre et de la confiture.
Eh oui.
C'est pas avec du beurre.
Il n'y a rien dedans.
Ah, c'est pas avec le sucre.
Parce que toujours vous nous parlez de beurre et confiture. C'est maintenant qu'il faut amener.
Non, mais nature, c'est très bien. Allez, mangez.
Alors, Aya, donc notre Mishnah, la Mishnah du. Donc le deuxième chapitre, et surtout le premier Mishnah, va parler de plusieurs points. On va parler tout d'abord de l'importance de la Kavana quand on lit le schéma. Et elle va nous parler de ce qu'on va appeler le Efsek dans le Kriyat Shema, la coupure dans le Kriyat Shema. D'accord ? Donc la Mishnah va parler de tout ça. Alors, de manière générale, avant de commencer la Mishnah, il faut savoir le principe suivant. Il y a une machloquette, est-ce que mitzvot srichot kavana ou mitzvot en srichot kavana? C'est une grande machloquette qu'il y a. Est-ce que les mitzvot nécessitent la kavana ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de kavana? C'est-à-dire, par exemple, je mets les tefilin. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la kavana que je suis en train de mettre les tefilin et que les tefilin, ça veut dire la soumission à Kadosh Baruch Hu? Oui ou non? Donc c'est une machloquette. Est-ce que pour les mitzvot, en général, il faut avoir la kavana ou est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir la kavana? Même d'après la vie qui pense que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. Quand je dis qu'elles n'ont pas besoin, ça veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de kavana.
Ouais.
Ça veut dire que si on n'a pas de kavana, on est quand même quitte de la mitzvah. Même d'après cette vie-là, il y a des exceptions. Par exemple, le schéma. D'accord? Par exemple, le schéma. D'accord? Pourquoi? Alors écoutez bien. L'exception est très simple. L'exception est comme ça. C'est que même la vie qui pense que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana, c'est uniquement pour les mitzvot qui dépendent de l'action. Comme la majorité des mitzvot, ça veut dire. La majorité des mitzvot dépendent de l'action, c'est un acte. D'accord? Donc comme c'est pour ça que je donne l'exemple des tefillin. Mais les mitzvot qui ne dépendent pas de l'action, les mitzvot qui dépendent de la pensée ou de la parole, Donc par exemple le schéma. Ou par exemple la crainte de Dieu. L'amour de Dieu. C'est des misères qui ne dépendent pas de l'action. C'est des misères qui dépendent de la pensée et de la parole.
L'amida, elle est de la pensée.
L'amida, c'est la parole.
Je ne parle pas pourtant.
On parle. On ne doit pas vous entendre, vous devez parler.
Ouais.
Donc c'est parti, les mitzvot de la parole. Les mitzvot de la parole et les mitzvot qui ont un rapport donc avec la parole et avec la pensée, on a l'obligation d'avoir une kavana minimale.
Quelle est la différence entre le schéma et l'amida alors?
C'est la même chose.
Donc c'est de la parole.
C'est de la parole. Ouais, les deux, c'est de la parole.
Quelle est la pensée?
D'accord. Alors c'est quoi la kavana?
Voilà.
D'accord. C'est là qu'on va dire ici. La kavana, ça c'est la Gemara qui l'explique. Elle dit que il faut avoir, quand on dit qu'il faut avoir la kavana, par exemple dans le schéma dans l'amida, il faut avoir au moins la kavana au début. Pour dire qu'on est bien démarré, qu'on est sur la bonne voie. Donc par exemple dans le schéma, il faut essayer d'avoir, enfin, c'est pas qu'il faut essayer, c'est qu'il faut avoir la kavana, c'est obligé d'avoir la kavana. Au moins, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il faut savoir ce que ça veut dire. Réfléchir à ce que ça veut dire. Si on l'a pas fait, il faut refaire le schéma. Même si on se rappelle 3 heures plus tard, on refait le schéma. On n'est pas quitte. Bien simple, on n'est pas quitte. C'est pareil pour l'Amida. Pour l'Amida, il faut avoir la kavana, au moins, pour la première bracha de l'Amida. Savoir de quoi on parle. Si on l'a pas fait, il faut recommencer l'Amida. Il faut recommencer l'Amida. Bon. Quand on avait fait le cours sur la Tchila, hein, on avait dit que quand même, il y a une porte de sortie. Mais bon, c'est vraiment un Bediavad de Bediavad qui dit que, David, je vois ta question arriver, il y a un Bediavad de Bediavad qui dit que si on a une Kavana générale pendant l'Amida, ça veut dire que je n'ai pas pensé aux mots. C'est-à-dire, je sais pas ce que chaque mot veut dire, mais je sais que je suis en train de prier devant Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'on sera quitte. Et pour vous dire, on rentre dans des bédiavades de bédiavades. Donc, mieux vaut prendre un livre. Aujourd'hui, tout est traduit. D'accord? Et savoir de quoi parle la première bracha de l'Amida. Au moins de quoi parle la première bracha de l'Amida, et au moins de quoi parle le Shema Israël, le Shema Elokeinu, le Shema Echad. Comme ça, vous êtes quitte. S'il n'y a pas ça, on n'est pas quitte. C'est important à savoir ça. Monsieur David, ta question.
T'as répondu.
Hein?
Je veux savoir si inconsciemment ou ça marchait ou pas, et je pense que tu as répondu.
Très bien. Alors, tu vois que je connais tes questions maintenant. Aya Kore Batora. Maintenant, c'est toi qui dois connaître mes réponses.
Je connaissais la réponse, mais je voulais qu'elle soit inscrite dans le registre. Les réponses.
Finalement, sans chauffage, c'est mieux.
Aya Kore Batora. Donc, si une personne. Oui, bon. Allez, attendez, je rajoute encore un petit point avant de commencer la Mishnah, parce que j'ai beaucoup l'introduction ici. Donc, c'est une machloquette, d'accord? C'est une machloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. C'est une machloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Jusqu'à où on doit avoir la Kavana? D'accord? Rabbi Yehuda pense qu'on doit avoir la Kavana sur tout le premier chapitre, c'est-à-dire jusqu'à Ubisharecha. D'accord? Et Rabbi Meir, il pense qu'on a besoin de la Kavana seulement dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et là, Halacha, elle est comme Rabbi Meir. Elle est comme Rabbi Meir, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous demande d'avoir la Kavana au moins dans le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà, c'est pour ça qu'une des techniques qui est dans le Shulchan Aruch, c'est quoi? C'est quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'est-ce qu'on fait avec la tête? On bouge dans les quatre coins. Pourquoi on fait ça? C'est une manière de nous rappeler que Kadosh Baruch Hu est partout.
Avec le
Parce que des fois, avec un geste, quand on fait un geste, ça nous permet d'avoir une Kavana plus facilement.
Avec le Baruch, en même temps.
Oui, Baruch, d'accord. Mais en tout cas, pourquoi on bouge la tête dans les quatre sens?
Le monde, comme quoi,
d'accord, pour nous rappeler que Kadosh Baruch Hu domine le monde. C'est pour se rappeler, c'est fait pour ça.
Ça fait pas.
D'accord? Et voilà, maintenant vous savez. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que quand vous faites le schéma, vous avez les mains devant les yeux, donc vous ne voyez pas ce que les autres y font.
Moi, j'imagine le monde.
Je me suis toujours caché la vue. Alors, je risquais pas de...
Mais des fois, on fait le schéma.
Comme
vous n'êtes jamais en retard, hein, voilà, donc vous risquez jamais...
Maintenant, là-dessus, il y a un passage comme ça, non?
Comme j'ai jamais
senti. On bouge la tête dans les quatre sens.
À la fin, quand on se retire, non?
C'est shalom.
En début.
Ouais. Pas dans les quatre sens. Droite à gauche.
Il n'y a pas dans la tefila.
Dans les quatre sens.
Pas que je me rappelle, enfin non. Je crois pas. Alors, Aya Koreba Torah, nous dit maintenant la Mishnah, Aya Koreba Torah, si une personne est en train de lire, donc vous allez voir qu'on va rentrer en plein milieu d'un problème de Kavana. Aya Koreba Torah, si une personne est en train de lire le Sefer Torah. Il est en train de lire le Sefer Torah, ou il lit dans le Chumash, allez. Et qu'est-ce qu'il lit? Les parachats du schéma. Et il s'avère que, Ve'igyaz Manamikra, donc lui il est en train de lire, il est en train d'étudier. Ve'igyaz Manamikra, et est arrivé l'heure D'accord. À Mikra, l'heure de lire le schéma.
Pourquoi on appelle Mikra le schéma?
D'accord. Mikra, ça veut dire Corée.
Ah, d'accord.
Est arrivé l'heure de lire le schéma. Alors la question se pose, c'est la question qui va se poser, il va se dire, est-ce que quand j'ai lu dans la Torah maintenant, est-ce que je me suis rendu compte du schéma ou pas?
En étudiant.
D'accord. Donc là, c'est un vrai problème de Kavana. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Im kiven libo, si il a eu l'intention de se rendre quitte de l'obligation du Kriyat Shema, d'accord? Dans ce cas-là, yatsa, il est quitte. Veimla, ve sinon, si c'est seulement une fois qu'il a déjà lu, et qu'il a lu en tant qu'étude, mais il n'a pas eu l'intention de se rendre quitte du schéma. C'est-à-dire que là, on apprend encore autre chose. On apprend que, pas seulement il faut comprendre ce qu'on lit, mais il faut avoir, ça on l'avait dit au nom de Rabbi Chaim de Brise, je crois, quand on a fait le cours sur la Tfila, non seulement qu'il faut comprendre ce qu'on lit, mais il faut avoir la kavana que je suis en train de faire la mitzvah. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que je suis en train de faire la mitzvah. C'est exactement le cas ici. Le cas ici, c'est quoi? C'est la personne a lu le schéma. Il a lu le schéma, il vient de le lire, il a compris puisqu'il a étudié dans la Torah. Il a étudié. Et après il dit à ma main, c'est l'heure du schéma, bah, tant qu'à faire, peut-être que je suis quitte. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, si tu avais la kavana quand tu as lu, que tu te rends quitte, avec que tu es conscient que tu fais la mitzvah, tu es quitte. Sinon tu es pas quitte. Veim lav, et sinon l'oyasa il n'est pas quitte. Quand?
Donc il étudie avant la tuile.
Bien sûr. Comme au Betraval. Oui.
Nous c'est le contraire.
Pardon, j'entends. Oui, pardon?
Nous c'est le contraire, quoi.
Deux secondes, monsieur, il y a une question de Julien. Oui? Par exemple, on parle peut-être de quelqu'un qui étudie la tuila. Hein, il est venu mercredi matin en retard, il étudie la tuila, et il arrive au moment du schéma, il dit, bah tiens, ça y est, j'étudie la tuila maintenant. Ça peut avoir plusieurs hypothèses. Ou bien on peut parler de quelqu'un qui a étudié la première paracha, hein, il dit, bon, bah, je passe direct à la deuxième, dans mon schéma. Donc la réponse...
Les trois paragraphes, on n'aurait pas besoin de dire schéma, c'est pas schéma, c'est pas schéma, c'est pas
schéma. À condition qu'on a compris ce qu'on a lu, et qu'on avait la kavana de se rendre quitte de la mitzvah. Non, pourquoi c'est pas nécessaire? Ils y sont. Il n'y a pas Baruch Shem Kavanah. Non. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte. Veim lav, et sinon, lo yatsa, il n'est pas quitte. D'accord? Alors, Baprakim. Maintenant. Donc, vous avez compris que la Kavanah est très importante. La Kavanah, il y a deux points dans la Kavanah. C'est quoi le dit? Qui peut me répéter les deux points de la Kavanah?
Comprendre ce qu'on dit.
Premièrement, c'est de comprendre ce qu'on dit, et deuxièmement, d'être conscient qu'on est en train de faire une mitzvah. Et donc, qu'on va en train de s'acquitter d'une mitzvah. Si, alors, en général, dans toutes les mitzvahs, on nous le demande, mais si on l'a pas fait, c'est pas grave. Mais dans le schéma, si on l'a pas fait, c'est un problème. Alors, comme je dis, il y en a qui disent que Bédiaval de Bédiaval, puisqu'on sait que je suis venu à la synagogue pour prier, que je suis en train de prier, donc on va dire que j'ai une kavana globale, que je suis en train de parler à Dieu. Mais honnêtement, ça vaut pas grand-chose. C'est vraiment... Bédiavad de Bédiavad pour nous dévendre en haut devant le Guéinom, d'accord, mais si vous voulez être tranquille, ne rentrez pas dedans.
Pourquoi tu écoutais pas ce qu'on dit?
Il faut comprendre ce qu'on dit, et il faut être conscient qu'on est en train de faire une mitzvah. Sinon, c'est pas bon. Baprakim, maintenant, on va parler d'un autre point. On va parler des coupures, j'avais dit qu'on allait parler des effets dans le Kriyat Shema, des coupures dans le Kriyat Shema. Écoutez bien. Baprakim, si on est... Entre les chapitres, ça veut dire entre le premier et le deuxième, ou entre le deuxième et le troisième. On appelle ça en hébreu, Baprakim. D'accord? Entre les prakim du Kriyat Shema, Shoel, d'accord? Mipnei Hakavod. Si j'ai quelqu'un qui rentre à la synagogue, par exemple, ou il est venu en retard, ou c'est moi qui est venu en retard. Donc je suis déjà après la prière, enfin, les gens sont déjà après la prière, je fais ma tfila, je suis à Shema Israël, d'accord? Donc j'arrive à la fin du premier paragraphe. Et il y a quelqu'un qui rentre dans la synagogue, quelqu'un à qui j'ai l'obligation de respecter. Donc par exemple, mon père, mon maître, ou quelqu'un qui est plus sage que moi, en Torah. D'accord? Donc c'est des gens que j'ai l'obligation de respecter. Et que, qui dit obligation de respecter, j'ai l'obligation de leur dire bonjour. À tout le monde il faut dire bonjour. Mais à eux, c'est une obligation. C'est pas seulement une politesse, c'est une obligation. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je peux leur dire bonjour? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui.
Vous êtes entre les deux?
Je suis entre les deux.
C'est bon? Entre les deux, on peut.
D'accord.
Chemin du matin alors, ou du soir?
Alors, écoutez bien. Maintenant, il y a deux catégories. Il y a Shoel et Meshiv. Il y a dire bonjour, Ça veut dire que quelqu'un il rentre, je dis le premier bonjour, et il y a répondre bonjour. C'est pas la même chose.
Ah.
On est d'accord? Juridiquement c'est la même chose. Ouais. Hein, c'est pas la même chose, hein. Dire bonjour, ça veut dire que directement, tu vois, le gars il rentre, ah bonjour, Rabbi, tu viens de le cabot. Répondre bonjour, ça veut dire que moi je dis rien, mais si on me dit bonjour, je réponds. Alors, répondre, c'est plus fort. Pourquoi répondre, c'est plus fort? Parce que dire bonjour, ça montre que vraiment je respecte la personne. Mais le fait de ne pas répondre bonjour, ça montre que tu respectes. Ça montre que tu te moques de la personne.
Dire bonjour en serrant la main. Sans parler.
On parle pas de serrer la main là. Attends, on va arriver après. On va arriver à faire bonjour avec la tête aussi. Ah viens si Tom, je te viens. Tu vas nous dire bonjour en t'asseyant. Donc Shoel et Meshiv. Donc là je vous explique les catégories, après on va voir les différentes cas de figure, est-ce qu'on peut ou on peut pas. Donc je dois dire bonjour, d'accord? Alors, la personne à qui je dois dire bonjour, c'est peut-être mon rabbin, c'est peut-être mon père, mais c'est peut-être aussi quelqu'un de standard. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, peut-être c'est moi qui vais lui dire bonjour, mais peut-être il m'a déjà dit bonjour et je me demande est-ce que je dois lui répondre bonjour ou pas. Donc nous dit la Mishnah. Baprakim, si on est Baprakim, Baprakim, ça veut dire entre les chapitres, Shoel, Mipnei Hakavod, j'ai le droit de demander, ça veut dire j'ai le droit de dire bonjour de ma propre initiative, d'accord? Mipnei Hakavod, quand c'est une personne que je dois honorer. Ou Meshiv. Et j'ai le droit de répondre. Répondre à qui? Répondre à qui? Répondre à qui? Répondre à tout le monde. Toute personne qui rentre, même un enfant qui rentre, il me dit bonjour, j'ai le droit de lui répondre bonjour. D'accord? Je dois répondre bonjour à tout le monde. Ou Baemtsa, mais lorsque je suis au milieu, attention, hein, il y a deux autres avis, hein, ne partez pas tout de suite. Ou Baemtsa et au milieu, lorsque je suis au milieu, c'est-à-dire au milieu de la paracha, ou au milieu d'une bracha, etc. Shoel Mipne Aira, j'ai le droit de dire bonjour à quelqu'un de ma propre initiative, pas pour quelqu'un que je respecte. C'est même pour mon rave, je dis pas bonjour, mais je vais dire bonjour seulement Mipne Aira quand c'est quelqu'un que j'ai peur. Par exemple, quand c'est le roi qui rentre. Le policier, j'ai pas peur.
Le policier.
Mais le roi, il va pas venir.
D'accord. Le roi, si j'ai pas dit bonjour au policier, il peut rien faire. On est d'accord?
Le roi, il pense pas.
Je suis pas obligé de dire bonjour.
C'est pas bonjour.
Mais le roi de l'époque, d'accord? Tu sais que si tu ne lui dis pas bonjour, tu risques de ne pas finir ton schéma.
Ah ouais. Si tu lui dis bonjour au policier, c'est la
pitié. Pas mal.
Les mecs du KGB, quoi.
Donc. Shoel Mipnei Aira, donc ça c'est un cas qui n'est plus d'actualité.
Ça existait avant.
Il y a peut-être des gens qui ont peur de leur femme aujourd'hui.
Avant.
Shoel Mipnei Aira, donc il a le droit de demander seulement quand c'est une situation qu'il a peur. D'accord. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ou Meshiv. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Il nous dit ou Meshiv et répondre, il peut toujours répondre. C'est-à-dire selon Rabbi Meir, divin Rabbi Meir, avis de Rabbi Meir, il nous dit que répondre bonjour à quelqu'un, on peut répondre partout. Partout et à tout le monde. D'accord? Je réponds n'importe où dans le schéma. D'accord? Et je réponds à n'importe qui. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir.
Ils sont d'accord, les
d'accord
deux.
Là. Mais la seule différence, c'est quoi? La seule différence, c'est à qui je peux dire bonjour. Pas répondre bonjour. Voilà. Alors là, tu ne dis pas n'importe qui. Si je suis entre le chapitre, je peux dire. Donc, bien sûr, à quelqu'un de qui j'ai peur, c'est sûr, parce que c'est un danger. Et aussi à quelqu'un que je dois respecter, comme mon père, mon maître, etc. Mais en plein milieu du chapitre, d'accord, pendant le schéma, d'accord. Dans ce cas-là, la seule manière dans laquelle c'est permis, c'est mipne aïr-a, ça veut dire si on a peur, d'accord, c'est si on a peur et qu'on risque de ne pas finir le schéma. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis, qui est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Baemtsa, Shoel mipne aïr-a. On va s'accrocher un petit peu là. Il dit comme ça, il dit au milieu du schéma. D'accord? Au milieu, qu'est-ce que j'entends par au milieu? Ça veut dire donc au milieu, en plein milieu du... Pas entre les chapitres, ça veut dire en plein milieu, je suis en plein milieu du schéma, en plein milieu d'un paragraphe. Shoel Mipnei Aira, donc ça c'est comme le premier. J'ai le droit de dire bonjour devant quelqu'un que j'ai peur, donc c'est évident. Ou Meshi Mipnei Hakavod, mais par contre, répondre bonjour, j'ai le droit de répondre qu'à quelqu'un, donc ou bien à quelqu'un que j'ai peur, ça c'est sûr, ou bien à quelqu'un que je dois respecter. Mais une autre personne, je ne peux pas répondre. Parce que je suis pendant le schéma. Baprakim. D'accord? Baprakim. Maintenant, quand je suis Baprakim, ça veut dire entre les chapitres, nous dit Rabbi Yehuda. Shoel Mipnei Hakavod. J'ai le droit de demander. Donc j'ai le droit de dire bonjour. Mipnei Hakavod. Mipnei Hakavod, ça veut dire donc pour quelqu'un que je respecte. ou me chiffre shalom le chol adam, et j'ai le droit de répondre bonjour à tout le monde. Est-ce qu'il a dit la même chose que Rabbi Meir ou pas?
Ouais.
A priori, il a dit la même chose. C'est pour ça qu'il y en a qui expliquent que Rabbi Meir, quand il a dit qu'il répond, ils disent que Rabbi Meir a dit qu'il a le droit de répondre seulement à quelqu'un à qui il a peur. Seulement à quelqu'un, pardon, à qui il doit respecter. Alors, je résume parce qu'on a eu beaucoup de détails. On a ici une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, on va commencer par le premier cas de figure. Je suis en plein milieu du premier paragraphe du schéma.
Allez.
D'accord? On va commencer par ce cas-là. Il y a un enfant qui rentre dans la salle, donc j'ai pas l'obligation de le respecter. Est-ce que je peux lui dire bonjour? Est-ce que je peux lui dire bonjour?
Oui.
Non. Est-ce que je peux lui dire bonjour?
En plein milieu?
En plein milieu. Tous les avis sont d'accord que non.
Un enfant.
D'accord? Un enfant. Très bien. Deuxième cas maintenant.
Est-ce que je peux lui dire bonjour?
J'ai mon père qui rentre dans la salle. Est-ce que je peux lui dire bonjour?
Oui.
Est-ce que je peux... J'ai une marloquette.
Moi je dis...
Ah. Marloquette.
Non. Rabbi Meir, il dit oui.
Rabbi Meir, il dit oui, très bien. Et Rabbi Yehuda,
il dit non.
Très bien.
Dit
troisième avis. Troisième cas de figure. D'accord. Donc je suis toujours en plein milieu du premier paragraphe du schéma. Et qui c'est qui rentre? Un roi.
Voilà.
Dans ce cas-là, est-ce que je peux lui dire bonjour?
Oui. Ouais.
D'accord, très bien. Maintenant, tout ça, j'ai parlé de dire bonjour.
Voilà.
Maintenant, je vais parler de répondre. Je recommence le cas. Donc je suis toujours en plein milieu du premier paragraphe du schéma. Et il y a un enfant qui rentre. Et qui me dit bonjour. Est-ce que je lui réponds?
Oui. Avec la tête.
Moi, je dis oui.
Hein? Est-ce que je lui réponds?
Avec la tête.
Est-ce que je lui réponds?
Oui.
Alors, a priori, c'est une marloquette. Rabbi Meir, il dit non. Rabbi Yehuda dit oui. Il faut lui répondre. Maintenant, deuxième cas. J'ai mon père qui rentre dans la salle et qui me dit bonjour. Est-ce que je lui réponds?
Oui.
D'accord? Est-ce que je lui réponds?
Au milieu des praquis.
Non, en plein milieu.
En plein milieu du...
D'accord? Est-ce que je lui réponds?
Pour Yehuda.
D'après tout le monde, oui. Rabbi Yehuda nous a dit oui, Rabbi Meir nous a dit oui aussi. D'accord? Si maintenant j'ai un roi qui vient, évident que d'après tout le monde, je lui réponds, j'aurais même pu lui dire bonjour.
Si c'est le fils
ça c'était en plein milieu d'un chapitre. Maintenant, entre les chapitres. Entre les chapitres, ça veut dire que je suis à Ouvi, Sharecha, et quelqu'un qui rentre. D'accord? Si c'est un enfant qui rentre, est-ce que je lui dis bonjour?
Oui.
Hein?
Non.
Oui, à tout le monde. Qu'en a dit Colada?
Non.
Est-ce que je lui dis bonjour?
Non, papa Rabbi Meir.
Encore une fois, je répète.
Selon un, oui.
Entre les chapitres.
Baprakim.
Et le dire vraiment verbalement ou faire un signe?
Ah, bonne question, on va voir ça après. D'accord. Déjà, j'ai quelqu'un. Je suis à Ubi Sharecha. Quelqu'un qui rentre dans la salle. Un enfant qui rentre dans la salle.
Rabbi Meir, il dit non.
Est-ce que je lui dis bonjour? Est-ce que je lui dis bonjour?
Non. Rabbi Meir, il dit non.
Rabbi Meir, il dit non. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit oui.
Il dit non aussi.
Entre les prakim,
il dit non aussi.
Non, il dit non, il dit que pour le kavod.
Il n'y a que le kavod. Très bien. Maintenant, si c'est mon père qui rentre, est-ce que je peux lui dire bonjour?
Oui.
Dire bonjour? Oui, je peux lui dire bonjour. D'accord? Si c'est le roi, c'est évident que lui aussi.
L'enfant du roi.
Très bien. Alors maintenant, il y a la question que Yves a posée. Il a posé la question, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, mon père il rentre dans la salle, je lui dis bonjour verbalement?
Faire un tableau. Hein.
D'accord?
C'est un peu compliqué.
Est-ce que je peux lui dire bonjour verbalement? Alors, le Shulchan Aruch, il nous dit que théoriquement, on peut dire bonjour verbalement. Mais techniquement, si la personne va comprendre quand on lui fait bonjour de la tête, d'accord? Je pense que la majorité des gens comprennent, on fait bonjour de la tête. Mais avec toutes les règles qu'on a appliquées ici. Ça veut dire que quelqu'un qui rentre à la synagogue, d'accord? Qui n'est pas mon père, ni mon maître, ni quelqu'un que je dois respecter, et je suis en plein milieu du schéma, et qui me dit bonjour, je ne lui réponds pas.
Je peux même faire ça.
Ah oui, c'est ce qu'on a dit ici.
Marloquette.
D'accord, je ne lui réponds pas. Après le schéma, je lui dirai, je lui fais un signe. Alors, le Shulchan Aruch nous donne une technique, il nous dit que même quand on ne peut pas répondre, ce qu'on a le droit de faire, c'est lui montrer qu'on est en train de faire le schéma. Non, tu lui montres, tu lui dis, ça c'est permis. D'accord? Bon. Mais sinon, d'accord, mais si c'est son père, on répond de la tête. On fait de la tête comme ça.
Voilà.
Si je peux pas répondre, qu'est-ce que je fais? Si c'est quelqu'un de standard qui rentre et que je suis pas... Ça veut dire quelqu'un de standard qui rentre à la synagogue, la seule manière où je peux lui répondre, c'est si je suis entre les chapitres. Mais si je suis en plein milieu d'un paragraphe, je lui réponds pas. La seule que je peux faire, c'est s'il me dit bonjour, je lui montre que je suis en train de faire le schéma. Et il va comprendre que je suis en train de faire le schéma, je peux pas. Et bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, assurez-vous, ça marche.
Moi, je trouve que même...
Attends, il y a un truc là qui me chiffonne.
Je vous chiffonne.
Et je l'applique, alors dis-moi si je me trompe. J'avais entendu que le schéma du matin et le schéma du soir, c'est pas pareil. On peut s'interrompre dans le schéma du soir parce que c'est rabbinique de le dire.
Ah, c'est faux. Il n'y a rien.
Ah, c'est une
de la même chose.
J'ai loupé la finale, donc. Verbalement, non.
Verbalement, on ne fait pas, non. Mais on fait de la tête. Mais de la tête, uniquement si c'est une personne qu'on doit respecter. Là, si c'est une personne qu'on doit respecter, on peut le faire, mais en plein milieu du schéma. Mais si c'est une personne qu'on n'a pas l'obligation de respecter, on peut lui faire verbalement, on peut lui faire de la tête seulement si on est entre les chapitres.
Voilà. Tu n'es pas en mesure de comprendre ou qui savait qu'il serait de le faire de la tête.
Tu lui montres le schéma. Tu lui montres que tu n'as pas le schéma.
Je ne comprends pas.
Bon, dans les faits, on évite. Aujourd'hui, on évite. Théoriquement, on peut. Voilà.